Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est en compagnie aujourd'hui de Rémi Barré, du sociologue Julien Damon, de l'ancienne avocate Gaëlle Mélul et du journaliste Daniel Riolo. On est avec vous également au 32-16 pour revenir sur la grève des éboueurs qui se poursuit dans plusieurs villes de France. Est-ce qu'il faut privatiser les services municipaux? On en parle dans un instant. 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. Tiens, on parlera des tenues des députés. C'est de moins en moins classe hein, à l'Assemblée. Qui viennent en short, en t-shirt.
Laissez aller, là.
Voilà. Enfin, est-ce que vous êtes choqués?
Les députés de l'ANUPS.
Oui, là, mais pas tous. Donc, est-ce que vous êtes choqués par ces tenues? On en parlera dans le zapping à 13h45. Ce sera la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. Faut-il sortir son argent de la banque après la faillite d'une grande banque américaine? On vous donnera la réponse à cette question. À 14h, des gamins de 7 ans qui terrorisent leur classe et leur institutrice dans les Yvelines et près de Marseille. Des cas de harcèlement et de violence partout en France. L'école doit-elle vraiment accueillir tous les enfants. Et puis 14h30, il y aura RMC s'engage pour vous avec une histoire insolite. On va tenter de venir en aide à Joseph. C'est un auditeur dont la maison a été percutée de plein fouet par une voiture. Vous savez où il habite, Joseph? Il habite rue de la Petite Vitesse. On en parlera à 14h30.
RMC Estelle Midi.
13h05 sur RMC et on va s'intéresser à la grève du jour et c'est bien sûr celle des éboueurs qui continue dans plusieurs grandes villes de France. Les poubelles s'amoncellent, les riverains et les commerçants sont en colère et à Paris, Anne Hidalgo, la maire de Paris qui soutient pourtant cette grève, vient de faire appel à une société privée pour ramasser les déchets dans plusieurs arrondissements gérés d'habitude par les services publics, Rémi.
Oui, et le mouvement des privatisations des services municipaux ne date pas d'hier. Hein. Il a gagné en ampleur à partir de la fin des années 80. Mais ses bénéfices restent toujours aujourd'hui très discutés, à tel point qu'il y a plusieurs exemples de ce qu'on appelle la remunicipalisation des services. Exemple donc avec la ville de Grenoble qui a commencé à procéder de cette manière à la fin des années 90 en remunicipalisant le service de l'eau, en mettant fin à un contrat avec Suez. La commune de Briançon a également repris la gestion de ses services d'eau et mis en place un service public local de l'énergie depuis quelques années. L'agglomération de Nice a repris la gestion de l'eau, là encore, et l'assainissement, mais aussi les transports publics, les cantines, le festival local de jazz et même un marché qui dépendent aujourd'hui de ces services municipaux. D'après une enquête de la Mutuelle Nationale Territoriale, près de 70% des Français se disent d'ailleurs attachés aux différents services publics de proximité. Et ils sont aussi nombreux à se déclarer hostiles à leur transfert vers le secteur privé.
Alors, faut-il privatiser certains services municipaux? Alors, on pense pas à la police, hein, évidemment, mais on pense par exemple aux éboueurs, aux jardiniers, à la cantine scolaire. Julien Damon.
Moi, j'y suis favorable, donc ça commence bien. Quand on parle de remunicipalisation, c'est de la remunicipalisation idéologique. Hein, c'est parce que ce serait pas bien. Donc, on se dit que si on était en régie directe, si on gérait directement, si tout ce beau monde était sous le statut de fonctionnaire, ça marcherait véritablement mieux.
À Nice, je ne suis pas sûr que ce soit idéologique. Connaissant la couleur de la mairie de Nice.
Mais puisque tu n'as pas prononcé le mot Nice, mais le mot Grenoble, on peut vérifier du
coup. Ah oui,
c'est Grenoble. J'ai parlé de Nice.
Bon, j'ai pas entendu Nice. Si. C'est bien grave. Le sujet premier, c'est de savoir si, oui, non, les habitants ont les services auxquels ils peuvent prétendre. Et en matière de poubelles, on a une démonstration éclatante. Estelle l'a dit, il a fallu avoir recours cette nuit à une entreprise privée pour débarrasser la ville de ses ordures.
Ils ont fait venir les éboueurs privés.
Pas partout.
Ils leur ont payé le transport, l'hôtel, l'eau d'effraiement.
Oui. C'est incroyable. Alors, les trois grandes dimensions de l'ordre public. Daniel.
Les autres font la grève.
C'est bien.
Estelle, bravo.
Mais que ce soit un petit peu, que ce soit public ou privé, c'est aux frais du contribuable. C'est cette espèce de mythe. On a l'impression que le public et le privé, les gens le verraient dans la rue. La différence, ça n'est pas le cas. À Paris, une partie des arrondissements.
On voit
les poubelles aujourd'hui. On voit les poubelles.
J'ai pas dit ça. J'étais juste en train de parler de ces gens qu'on a défrayés pour venir ramasser les poubelles, alors que les autres faisaient grève. Excuse-moi, aux frais du contribuable. Pardon de trouver ça complètement délirant.
Mais je suis de ton côté en la matière. Sauf que si c'était tout en privé, on n'aurait pas eu à en défrayer davantage par rapport à
ramasser les poubelles. En quoi une entreprise privée peut pas le faire? Ça fait des années.
C'est ce qui se passe
dans plein de villes.
Globalement, à Paris, une partie des arrondissements sont gérés en régie directe par le public, une autre moitié, Daniel, sont gérés par Veolia, Suez, etc. Et c'est là où ça marche le mieux. Et je crois que cette nuit, c'est la société de Richebourg, aussi une grande entreprise multinationale française, qui a été mobilisée sans être réquisitionnée juridiquement. Je dirais un seul mot pour terminer sur ces affaires et centrer sur nos amis, les éboueurs, les rippers, qui n'ont pas un métier facile, c'est que c'est absolument surréaliste que d'avoir deux statuts différents dans Paris. Ils se croisent dans la journée. Et notamment, on regarde nos affaires de retraite. Ils ne vivent pas dans le même monde. Alors, on peut estimer que la convention collective...
Ils ne doivent pas être payés le même salaire non plus.
Ouais, alors on peut regarder ça. Il y a d'un côté le statut de la fonction publique territoriale qui protège sécurité de l'emploi en particulier. Et de l'autre, il y a une convention collective qui est certainement à améliorer. Mais ces inégalités sont délirantes. Ils ont exactement le même métier. Donc, on peut égaliser et mieux fonctionner sous l'égide de la liberté. Libéralisons.
Ah oui, mais c'est chez ces gens-là, l'égalité, c'est quand ça les arrange.
Oui, Yael Mellul, est-ce que vous trouvez que les services publics sont dépassés aujourd'hui?
Ils sont dépassés par la réforme des retraites, surtout, en fait.
C'est pas le sujet, faut pas tout ramener
aujourd'hui parce que
c'est la faute de Macron encore.
C'est la faute de la réforme des retraites.
Mais pas à Marseille il y a 3 mois
donc,
par exemple.
Aujourd'hui on parle bien de la on parle bien des éboueurs aujourd'hui là.
Non mais les éboueurs la grève des éboueurs elle n'est pas qu'à Paris, elle est dans d'autres villes.
Elle
était à Marseille il y a 3 mois, ça n'avait rien à voir avec Macron.
Il faut remettre les choses à l'endroit. Aujourd'hui si Paris, on va prendre Paris, est dans cet état-là parce que les poubelles ne sont pas et que les éboueurs font grève, c'est parce que les éboueurs sont contre la réforme des retraites et qu'ils sont en situation.
Mais cette fois-ci, je vais dire, pour leur salaire.
Légitime défense sociale, quelque part. Voilà. Ils sont en réaction. Ils ne sont pas simplement en réaction, d'ailleurs, par rapport à la réforme des retraites, ils sont en réaction par rapport à leurs conditions de travail, par rapport à la pénibilité de leur travail.
Si c'était, si c'était privatisé, les salariés pourraient faire grève de la même façon.
Fait quoi des éboueurs, là?
Les éboueurs privés, ils ne font pas grève, ils ont les mêmes conditions de travail.
Oui. Mais ils n'ont pas les mêmes salaires, ils n'ont pas les mêmes conditions de retraite.
Bah oui, elles sont plus dégradées.
Voilà. Bah oui.
Leurs conditions
de retraite. Donc en fait, c'est de la défense quoi par secteur?
Ah ben, c'est la défense par secteur et c'est une manifestation.
Donc c'est pas du tout, il n'y a pas du tout d'égalité dans
c'est une manifestation.
Ton propos,
c'est une manifestation de leur colère.
Mais c'est de la colère du service public.
Tu réponds à la question que les poubelles, ça doit être public. Ça peut très bien être privatisé, le service de ramassage des ordures.
Si tout était privatisé.
C'est même principalement privé.
Ça marcherait même mieux. Il y a plein de villes où ça marche beaucoup mieux.
Et donc l'État se délesterait complètement
Des poubelles. Est-ce que l'État a vocation à ramasser les poubelles?
Vocation, j'en sais rien. En tout cas, obligation. Il y a une obligation de service public local, c'est de ramasser les déchets. En revanche, les cantines scolaires, Daniel, les cantines scolaires qui étaient dans la question.
Pas tous en même temps.
Là, c'est la blague. Bah évidemment. C'est pas la santé publique, c'est l'ordre public.
Parce qu'il faut aller le dire à l'Inde.
Mais il y a pas que la santé publique. Daniel, appelons ça l'ordre public, dont je répète les trois principales caractéristiques, qui sont la sécurité, la tranquillité, la salubrité. Sur ces trois dimensions, le problème des poubelles dans Paris ou à Marseille qui gênent les passants, d'abord physiquement, ensuite olfactivement, ensuite sanitairement, c'est un trouble grave à l'ordre public.
Daniel Riolo est énervé sur ce dossier parce qu'il vit dans un appartement qui est géré justement par les services publics des éboueurs.
L'arrondissement.
Oui.
On vient dans le 11e.
Je te dis de plus.
Tu veux privatiser?
Ah, mais je crois l'avoir fait comprendre depuis le début débat. Je pense qu'effectivement, je ne vois pas. Mais Julien a tout dit, en fait. Je ne vois pas où est-ce que ça marche mieux parce que.
Non, je dis comme d'habitude, ça l'amuse.
Je ne vois pas où est-ce que ça marche mieux quand le service est public du ramassage des ordures par rapport au privé. Effectivement, tu l'as dit, ça marche mieux quand c'est privé. En fait, je ne vois pas la justification au fait que ça continue à être un service public.
Eh ben Rémi va te la donner, Rémi Barré.
Non, alors, mais c'est
ça, attends, je sincèrement, moi, quand il m'aura expliqué.
Ce voilà. matin, non mais Daniel, j'ai vraiment regardé le dossier et ce matin, j'ai eu plein d'exemples contradictoires selon les communes. Il y a vraiment des communes où, notamment à Marseille, où c'est du service public, mais dans les quartiers populaires de Marseille, là, c'est donc sont des régies privées et que vraiment, il y a une différence de traitement entre le public et le privé, ou contrairement à ce qu'on peut penser, dans les quartiers populaires de Marseille, ce sont des régies privées et ça fonctionne très mal. Alors qu'à l'inverse, à Paris, on a vu ces derniers jours qu'effectivement le service continuait dans les quartiers qui sont régis par le privé et que c'était l'inverse dans le service.
Donc si ça c'est très contradictoire. Et je c'est te pas remercie pour tout. L'information. Ouais. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui justifie forcément que ce soit le service public qui continue à gérer
un message d'ordre justification
automatique, parce que dans certaines communes, ça fonctionne bien, comme dans celle de Bernard, qui nous appelle à d'Évry-le-Châtel, dans l'Aube. Alors oui, c'est peut-être un petit peu plus petit que Paris. Bonjour Bernard.
Bonjour, alors c'est pas Évry, hein. Vous êtes pollué par la région parisienne.
Hervy, bien sûr. Voilà. Oh là là, toutes mes excuses Bernard, mais je suis désolé.
De rien. Alors oui, je trouve vos intervenants, là, pour l'heure bien nécessitée. Je pense qu'ils sont surtout dogmatiques. Bon, c'est sûr qu'en ce moment, il y a le coup de feu de la grève. Il y a le coup de feu de la grève qui énerve les gens. Bon, soit. Mais si on réfléchit un petit peu et qu'on fait un peu d'économie, dans ma petite ville à moi, c'est un service intercommunal qui passe. Ça veut dire que ça garantit qu'il y a des employés locaux qui vivent dans le coin et qui sont employés par une société, je ne sais pas si c'est d'économie mixte, peu importe, qui les payent de manière relativement correcte. Et ces gens-là font vivre la petite ville parce que ça fait des emplois, ça fait des gens qui vont au supermarché, ça fait des gens qui vont chez le médecin.
Pardon de vous couper, mais s'il passait pour Veolia, ce serait exactement la même chose.
Vous n'allez pas nationaliser les boulangers. Bernard, moi j'ai le cas dans mes communes de Bretagne, il y a effectivement un truc intercommunal, mais c'est géré par Sictom, je crois, une société privée, et c'est bien géré.
Parce qu'une boîte privée, elle n'est pas là pour faire du service, elle est là pour prendre du pognon.
D'accord. Bah oui, mais c'est votre boulangerie, vous la nationalisez alors ?
Point barre. Pardon ?
Vous nationalisez la boulangerie, la boucherie, tout.
Si on avait une heure de discussion en tête à tête, je me calmerais rapidement parce que vous racontez n'importe quoi. Vous êtes des spécialistes d'économie bidon.
On n'est pas des idéologues, pas du tout, pas de dogmatisme.
Il y a un réseau de petites villes, il n'y a pas que Paris en France.
Mais c'est ce qu'on vient de dire, Bernard.
Il y a des petites villes qui meurent en ce moment, qui meurent. Les maires, ils rament comme des malades pour sauver la vie dans ces villes.
Mais ça, c'est pas à cause du privé.
Quel est le sujet, là?
Mais c'est parce que depuis 20 ans, 30 ans, on a supprimé la poste. On a supprimé les gares.
Mais parce que les gens n'y vont plus, Bernard. Les gens n'achètent plus de timbres, les gens ne vont plus à la poste. Vous pensez bien, Bernard, excusez-moi.
C'est pas vrai, ça.
Si les gens allaient à la poste, ils rentrent à la poste. Mais
est-ce qu'on pense aux personnes âgées, par exemple?
À la SNCF, les gares, les points d'arrêt non gérés, et une manière de voir qu'il n'y a personne.
Il faut arrêter de penser que tout le monde a un ordinateur, un téléphone.
Pour les petites gares, mais c'est pas dans l'eau, parce qu'il n'y a pas de neige. Une technique à la SNCF pour montrer que ça servait vraiment à rien, c'est d'attendre qu'il neige et le lendemain vers 17h, amener les élus pour leur dire combien il y a de pas dans la neige. Il n'y avait rien. Donc, il y a quand même des démonstrations pour lesquelles il y a des services.
En l'occurrence, je parlais de la poste.
Oui, d'accord. Mais la poste, alors on a fait le sujet il n'y a pas longtemps, il y a de moins en moins de postes parce que les gens ne vont plus à la poste.
Supprimons la poste, supprimons les facteurs.
Mais non, mais il y a des réalités. Mais il faut supprimer tout ça.
Non, mais entretenons des services publics qui ne servent à rien juste aux frais du contribuable parce que ça fait plaisir à Bernard.
Ça ne sert pas à rien.
Mais enfin, comme ça, Bernard sera content, il pourra faire ses cours d'économie.
Bien sûr, mais ouvrons tout.
Je vais pas être méprisant. Le mec qui vient, il nous insulte, mais nous, on n'a rien le droit de dire. Juste parce que c'est un auditeur, merci.
Pourtant, il y a quand même une voix moyenne là-dessus. J'espère que Bernard sera d'accord avec moi. C'est que il y a des obligations de service public. Et il y a l'obligation qui est faite aux collectivités locales de ramasser les déchets. Que ce soit à l'échelle communale pour les grandes villes ou à l'échelle intercommunale pour les plus petites. Mais que ceci soit fait en régie publique par des fonctionnaires ou par des entreprises privées, pourquoi pas? La seule chose, il faut que ça se passe. Là, globalement, il se trouve que ça se passe pas. Et que ça ne se passe pas là où le public est à la manœuvre.
Bernard, vous voulez avoir le mot de la fin ?
Le droit.
Non, je ne veux pas avoir le mot de la fin. Personne ne veut l'avoir. Simplement, vous avez évoqué les transports de chemin de fer.
Oui.
Regardez bien ce qui va se passer en France. On est en train de laisser intervenir des sociétés privées sur le réseau ferré national.
Bah, ça se passe très bien avec Trenitalia.
Regardez ce qui vient de se passer en Grèce.
Ouais.
Analysez les raisons de la catastrophe en Grèce.
Bon, faudrait pas comparer la France à la Grèce, Bernard. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut.
Mais, 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 ça vient. Et on aura la même situation qu'en Angleterre, où dans un premier temps, on a privatisé à mort, et maintenant, on revient à une renationalisation.
Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai en Angleterre. Hein. C'est le contre-exemple qu'on met toujours à l'avant. L'Angleterre, c'est pas bien en termes de chemin de fer, ça marche très bien.
Ça dépend. Il y a eu des
comme la France et la SNCF, vous n'êtes pas dans le sac.
Laissez parler Bernard.
C'est formidable, Bernard.
Non, mais le sujet est beaucoup plus complexe.
C'est une tactique, là. Ils sont trois à me parler par-dessus la tête pour quoi je parle. Et vous verrez. Mettez ça sur un bout de papier, là.
Je vais le noter, Bernard.
Vous savez que les entreprises ferroviaires étaient privées avant qu'on crée la SNCF, ça marchait bien.
Eh ben merci Bernard en tout cas d'avoir appelé, d'avoir mobilisé contre vous, Julien Damon et Daniel Riolo. On me dit à l'oreillette, Bernard c'est Verratti par rapport à Daniel Riolo. Vous avez plein de messages Rémi sur l'appli RMC.
Oui, il y a de nombreux messages qui sont assez contradictoires et je vous en lis deux. Aïssa d'abord qui nous dit, moi je suis pour la privatisation de certains services comme pour les éboueurs, je trouve ça inacceptable que des agents mettent délibérément la santé des Parisiens en jeu parce qu'ils veulent juste faire plier le gouvernement. Quand un enfant se blessera à cause d'un rat, enfin, se sera blessé par un rat ou se blessera à cause d'un bout de verre. J'espère que les parents porteront plainte.
Non, bon, voilà. Contre l'État.
Il y a un adjoint.
Pas contre les éboueurs. Contre l'État.
Contre l'État. Contre la ville.
Il n'y a rien.
Contre la ville.
Juste, quand même, Yael Mellul, si jamais, par exemple, c'était privatisé, ça permettrait peut-être d'avoir des horaires d'ouverture plus amples. Tu pestes contre la fermeture de certaines postes dans lesquelles les gens ne vont plus. Mais pourquoi les gens ne vont plus à la poste? Parce que quand la poste, elle est ouverte de 10h à 17h, bah, vous savez, les gens travaillent. Donc les gens, en fait, ne veuvent pas aller à la poste.
Ah non, tandis dans le monde de Yael, ça ne travaille pas. Ça manifeste.
Mais oui, alors, sûr, moi, dans mon monde, c'est privé, des rentiers qui vont manifester et qui bloquent parce qu'ils sont tellement pétés d'oseille qu'ils ont que ça à faire. Évidemment, c'est sûr. Hein. C'est bien connu, d'ailleurs, que chez les manifestants, il y a que il y a Bernard Arnault d'ailleurs hein, aussi qu'on le voit bien. Non mais il faut arrêter. Je veux dire la poste. Moi je vois ma mère, voilà, elle a 86 ans ma mère. Oui. Elle fait comment pour envoyer des courriers elle?
Achète un timbre enfin.
Elle achète un timbre à la poste et elle va à la poste, voilà. Ça se passe comme ça parce que ma mère n'utilise pas d'ordinateur.
Mais on peut plus envoyer des lettres. De toute façon, il y a plus de timbre.
Bah oui, mais ça si vous voulez, ça ne reflète pas la réalité. On n'est pas dans le réel. C'est ça le problème.
Non mais il y a la raison.
Dire les gens à mobilité.
Mais il y a une réalité économique. Est-ce mais que tu es prêt à payer des impôts pour maintenir ouvert un bureau de poste pour une à deux personnes par jour?
Oui, la réponse est oui.
Pas sur les poubelles.
La réponse est tous les Français. Est-ce que tu crois qu'on doit payer plus d'impôts pour deux personnes qui doivent l'utiliser?
Deux personnes dans le 16e ou dans le 8e. Vous êtes gentil, mais la France, ça se réduit pas à ça.
Peut-être même que dans le village, les gens ne sont pas d'accord.
Il y a des petits villages, il y a des territoires ruraux, il y a des petites municipalités.
Mais c'est la même chose. Peut-être que dans un village de 5000 habitants, peut-être que les gens sont
facteur,
pas d'accord.
Et le facteur,
je
on le supprime.
Je te trouve bien sûr de toi.
Mais bah non, je reçois de courrier. Mais excuse-moi, Yael. La dernière fois
ma mère, elle reçoit.
Avec tout le respect que je te dois.
Mais attends, ma mère, elle n'est pas la seule à être une personne âgée en France, tout de même, j'imagine. Voilà, tout ne se passe pas par Internet. Faut arrêter.
Malheureusement, non.
Ma mère, elle fait encore des chèques pour payer les factures.
Ah.
Oui, non, mais la seule en France. Je ne le crois pas. Voilà, je ne le crois pas.
Non, mais beaucoup de mères et de grands-parents le font, voilà. Ça. On est d'accord, Yael. Mais enfin, à un moment, on peut aussi avancer.
Maman, je t'embrasse.
Bon, voilà. Puis on va tous lui écrire un petit mot. Non, mais je voulais revenir sur les rats, mais de façon positive. C'est-à-dire que notre auditrice qui nous a envoyé un petit mot nous disait qu'elle avait peur des rats. Et j'ai entendu quelque chose qui est un argument très valable. C'est comme il y a plein de poubelles dehors, les rats sont ravis, ils sont repus, et donc ils ne vont pas nous attaquer. Donc si on ne veut pas être attaqué par les rats, il faut mettre des poubelles dehors. Voilà.
Et voilà, ça c'est une bonne nouvelle pour Daniel qui ne sera pas attaqué vu le montant.
Ah oui, il est protégé des rats.
Devant son appartement. Oui, Rémi Barré.
Une petite précision tout à l'heure, Yael, pour revenir à ce que tu disais. Tout à l'heure, je citais une enquête qui a été faite récemment par la Mutuelle Nationale Territoriale qui nous dit que près de 70% des Français se disent attachés aux différents services publics de proximité.
Mais oui,
ils sont aussi
qu'ils sont aussi nombreux à se déclarer hostiles à leur transfert vers le secteur privé. Mais dans cette même enquête, on nous dit que 57% d'entre eux ne sont pas prêts à payer plus pour maintenir ces secteurs, ces services.
Ah,
c'est la grande contradiction. Tout le monde dans les sondages, on veut le modèle social, on veut maintenir tous les services publics, on va tout nationaliser parce que tout doit être... Et puis après, sans payer d'impôts. Mais c'est une incohérence française absolue. C'est toujours ça, c'est qu'on ne comprend pas à quel point c'est cher. Et c'est pour ça que je répète tout le temps dans cette émission qu'on est le pays où on paye le plus d'impôts, que la dépense publique est le plus élevée. C'est toujours le même discours, c'est quand même exaspérant.
Je voudrais qu'on prenne Aïssatou.
On veut tout
mais sans payer.
Oui. Je voudrais qu'on prenne Aïssatou en ligne. Elle nous appelle de Saint-Jean-de-Mont en Vendée, évidemment, très jolie ville. Et elle est hôtesse de caisse. Bonjour Aïssatou.
Bonjour à tous. Et je vous souhaite, je vous félicite de supporter Yaël. Mais franchement,
elle est super. Je la défends.
Macronisme.
Il faut lui envoyer une petite lettre.
Oui, bon, ça c'est vrai.
Oui, ça c'est vrai que si Macron pouvait être pendu place de la Concorde dans les jours qui viennent.
C'est pas vrai du tout.
Écoutez, Aïssatou,
c'est quand même incroyable. On a encore le droit de pas être d'accord avec Macron, dans ce pays, rassurez-moi.
Ça vire à l'obsession.
Pas du tout. Membre de votre famille, je sais pas moi.
Pardon.
J'ai l'impression qu'il a tué un membre de votre famille. En fait, même si vous il proposait un salaire à 2000 euros, je ne sais quoi, vous trouverez.
Non, s'il me proposait, je serais d'accord, il n'y a pas de problème. Et vous savez, vous me faites un faux procès, parce que moi j'ai travaillé en fait pour ce gouvernement. Pendant le Grenelle, vous savez, madame. Ouais. Ah oui, j'avais un groupe de travail. J'ai copiloté un groupe de travail, moi, pendant le Grenelle. J'ai fait voter une loi, moi, madame.
J'ai fait voter une loi
sur l'emprise et le harcèlement moral qui conduit au suicide. Oui. Et j'étais très heureuse. Et j'ai remercié tout le monde. J'ai remercié le président de la République. J'ai remercié Édouard Philippe. J'ai remercié Marlène Schiappa. Bon. Donc, vous voyez, quand les choses sont bien faites, je le dis. Bon, mais par contre, quand je suis pas d'accord, je le dis aussi.
Bon, écoutez, ce n'est pas le sujet. Bon, Aïssatou. Revenons à nos moutons.
Moi, je suis pour la privatisation, en fait, on va dire, de certains services, comme les éboueurs, je suis désolée, ils mettent en danger quand même les habitants. Alors là c'est sur Paris, il y a sur Nantes, j'ai entendu Havre également. Mais même l'image que ça rend, on a des touristes qui viennent sur Paris. Même pour une semaine, on doit se dire qu'ils ont payé quand même leur billet d'avion pour visiter la ville. Et ils se retrouvent avec un tas d'immondices. C'est incroyable. Et quand j'entends dire les éboueurs qu'ils ne veulent pas travailler, ils partent quand même à 57 ans. On ne va pas dire que 2 ans de plus, c'est ça qui va les achever. Moi, je fais un métier difficile et je sais que je ne vais pas partir à 57 ans. Là, j'arrive sur mes 40 ans, je porte des bouteilles de gaz de 13 kilos, de 35 kilos, toute seule, je suis une femme, mais je sais que je ne ferai pas ce métier-là jusqu'à 64 ans. Au bout d'un moment donné, je changerai de boulot. Je ne comprends pas. On se plaint, on dit qu'on fait des métiers difficiles, mais en même temps, on veut garder ce boulot-là, mais partir plus tôt.
Voilà, oui,
qu'ils ne me disent pas qu'ils se battent pour tous les Français. Non, ils se gardent juste pour garder leur régime spécial, et puis c'est tout, quoi. Et Anne Hidalgo, qui dit qu'il soutient les éboueurs, qui soutient ce mouvement de grève, elle est bien contente. Son hôtel de ville, il est tout propre. Les poubelles, bien sûr, sont déblayées. Par contre, dans les autres quartiers, ça, c'est pas fait. Et juste les villes et les arrondissements où qui sont entretenus, on va dire, par des sociétés privées, là c'est déblayé. Comment ça se fait qu'il y a cette différence là, quoi?
Parce que c'est la différence entre le public et le privé. Même si on va quand même le rappeler, les éboueurs du public ont parfaitement le droit de faire grève. Je veux dire, voilà,
des grèves chez Veolia, en région parisienne notamment, on en a vu.
Voilà, avec tout le monde a le droit de faire grève. C'est un droit. Il n'y a pas de problème. Mais force est de constater quand même qu'il y a plus de grèves dans le public que le privé.
La démonstration était éclatante aujourd'hui.
C'est sûr que là, Paris, pour montrer à quel point, effectivement, le privé, là, en ce moment, était plus faible que le public, il ne pouvait pas faire mieux. Mais les grévistes se tirent quand même
question,
une balle dans le pied.
La question de base, c'était qu'est-ce que ça apporte réellement que ce soit sous le régime du public.
T'as moins de grèves, il y a plus de flexibilité.
Alors c'est le contraire là, par rapport à ce que dit Daniel. Il disait, est-ce que ça apporte le régime public?
La question, j'ai bien compris, c'est est-ce que les poubelles, ça doit rester, ça doit être partout privatisé?
Surtout, tu peux pas virer les gens dans le public, donc qu'est-ce que tu fais?
Doit rester dans le public, je vois pas l'intérêt en fait.
Mais parce que t'as des gens qui travaillent déjà, qu'est-ce que tu vas faire? Du mec qui est éboueur et qui a 25 ans, tu vas faire quoi?
Ils vont dans une boîte privée qui prend les marchés. Où est le problème? Ils vont dans le groupe Nicolin, comment c'est, Pizzolo, un grand groupe.
Bourg, Suez,
Pizzolo, t'es sûr? Pizzolo, ça ne dit rien.
Des petites boîtes dans l'aube.
Il y a un nom comme ça.
Ah oui, on me dit si.
C'est possible.
J'ai pas vu ce service, mais.
Dans le sud.
Mais il doit exister. On termine avec des messages, Rémi, et le résultat très intéressant de notre consultation sur Twitter.
Il y a Sylvain qui nous dit, parce qu'on élargit au service municipal, on parlait à l'instant des poubelles, mais Sylvain nous dit bonjour, moi je passe tous les jours devant la poste et c'est marrant, il y a du monde tous les jours. Bon, voilà, c'est un message
qui peut rassurer.
Il doit y avoir un supermarché à côté.
Quand ça marchait bien la poste et que j'y allais, qu'il y avait une queue de 3 heures.
Ouais.
Mais non, mais c'est parce que c'est le porte-monnaie des personnes en difficulté, la poste. C'est la banque.
Il ne fallait pas y aller après 15h45.
Mais ce n'est pas pour le service postal, c'est pour la banque postale.
Bon, et Rémi, le résultat de cette consultation.
Faut-il privatiser les services municipaux? C'est le nom qui l'emporte. C'est pas franc du collier, mais quand même, pour 57%.
La maman d'Yael, elle est à la poste, pour 9h le matin, elle rentre à 18h.
Pour 57% des personnes qui sont prononcées sur nos réseaux sociaux.
Et la maman d'Yael vient de voter, surtout.
Tout ça pour deux timbres.
La maman d'Yael vient de voter, on nous dit qu'elle est pas sur la table.
Daniel, vous nous avez dit quoi? Comment ça s'appelle votre service de poubelle, là?
Pozzono?
Non, Pizzaiolo. En fait, on a vérifié ses Pizzorno, donc ça n'a rien à voir.
C'est pas loin.
Mais quelle mauvaise foi.
Il a retenu ce nom, c'est étrange.
C'est ça qui est fou. Dans un instant, le zapping, le meilleur d'RMC. On se demandera si l'État doit continuer d'aider les TPE, PME, puisqu'il y a encore des aides gouvernementales qui vont être mises en place. Et puis, est-ce que vous êtes choqués par les tenues de nos députés depuis quelques temps? Il y a un laisser-aller à l'Assemblée nationale. On voit des shorts, des baskets, même des t-shirt, pas de cravate, est-ce que ça vous choque ou pas? Et puis, Platini pourrait-il sauver le foot français? Il veut pas, mais est-ce qu'il faut l'obliger? À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h31 sur RMC, RMC Story. Vous êtes dans Estelle Midi. On est ensemble jusqu'à 15h et en compagnie de Rémi Barré, Julien Damon, Yaël Mellul et Daniel Riolo. Et tout de suite, c'est le moment du meilleur d'RMC, le zapping. C'est parti.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et nous allons commencer avec un extrait d'Apolline Matin sur RMC. L'État doit-il continuer d'aider les TPE, PME, les toutes petites et petites entreprises mises en place l'automne dernier pour aider les petites entreprises en difficulté face à l'inflation? Les différentes aides du gouvernement s'élèvent aujourd'hui à 12 milliards d'euros, des aides nécessaires pour la ministre en charge des PME, Olivia Grégoire. Elle était l'invitée d'RMC ce matin.
Moi, je m'inquiète aussi de leur morale. Ça fait 5 ans que c'est compliqué pour nos commerçants, pour nos artisans. Des journées, des week-ends entiers fermés, les violences, les vitrines saccagées, le Covid ensuite, la crise sanitaire où ils ont dû fermer, s'adapter, le click and collect, tous les ans maintenant l'inflation des matières premières, la difficulté de l'inflation des Français, ils se battent tous les jours, et on les entend très peu, ces gens. Ils travaillent beaucoup. Et j'appelle tous nos TPE, toutes nos PME, à faire appel à ces aides. Il y a 12 milliards d'euros sur la table. Il faut que cet argent puisse accompagner les factures d'électricité et donc, de nos petites entreprises.
L'informatique. Julien Damon, est-ce que l'État doit continuer à aider les petites et très petites entreprises, ou est-ce que là, maintenant, 12 milliards d'euros, c'est bon, ça suffit, quoi?
Je dirais, pour bien enfoncer une porte ouverte, celles qui en ont vraiment besoin. Enfin, si on doit aider comme ça, non, pas toutes. Il y a plein d'entreprises qui n'ont absolument pas besoin d'aide publique. Certaines, en revanche, de services de proximité, des boulangeries, ceci a pu nous être montré dans des reportages.
Elle a dit
quand t'étais frappé par l'inflation ou frappé par les fermetures. Oui, justement, c'est un peu bêta.
Elle a dit toutes, ou
elle a dit les PME qui doivent demander. Non, mais le gros sujet.
Toutes les petites et très petites.
Le gros sujet, c'est ce qu'on baptise les entreprises zombies. Il y a des entreprises qui, hélas, doivent mourir. Et on continue à les faire vivre alors qu'elles devraient disparaître. Alors, ça n'est pas simple que de dire, toi, tu as droit ou non à telle ou telle aide, mais c'est pourtant ce qu'il faut faire. Voilà.
Vous êtes d'accord avec ça, Yaël Mellul?
Il s'appelle Yaël Mellul aussi, il est fort.
Bien sûr qu'il faut continuer de les aider. Hein. Bah, évidemment.
Ah, bon?
Ah oui, c'était surpris. Hein.
Ah bah oui, là,
bah oui, évidemment. D'autant que la situation va s'aggraver, puisque l'inflation n'est pas prête.
On nous dit ça tout le temps. Et...
Bah oui, mais on va avoir un mars. J'ai cru comprendre qu'on allait avoir un mois de mars rouge.
Bah on est.
C'est pas le cas. Pour le moment, c'est pas le cas.
C'est pas le cas. C'est comme Bruno Le Maire avait annoncé un mois de mars rouge. Évidemment, il n'est pas rouge.
Le prix de l'électricité. Je suis pas certaine que qu'ils puissent encore honorer leurs factures. Donc évidemment qu'il faut continuer de les aider. Ils en ont besoin maintenant. Je sais pas.
Mais si tu maintiens hors de l'eau des entreprises qui, de toute façon, pendant le Covid, par exemple, il y a plein de restaurateurs.
Alors, on va les accompagner dans les dépôts de bilan.
C'est nécessaire.
Une
personne qui meurt, tu la gardes sur le respirateur ou à un moment, tu prends une décision?
Il faut les aider à passer cette situation difficile.
Daniel Riolo.
C'est quoi, c'était la métaphore qui est...
Parce que c'est moi qui l'a utilisé.
C'était un peu dur, mais par exemple, si t'as un restaurant qui ne marche plus depuis des lustres, pendant le Covid, c'est arrivé,
il faut cibler.
Oui, mais moi je ne connais pas les conditions d'octroi de ces aides.
C'est pour tout le monde, elle l'a dit.
Oui, mais enfin bon, ce ne sera pas la première fois.
Oui, enfin,
rapporter n'importe quoi
pour l'électricité, tu vois. Ouais. Voilà, c'est pour les très petites et petites entreprises. Est-ce qu'on a raison d'aider ?
Moi, je m'inscris dans le damonisme.
Ah, d'accord. Je suis d'accord avec ça. C'est une très bonne école de pensée.
On est au cas par cas.
Oui, bon, oui, non, bien sûr. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu as également dit. Il y a des entreprises qu'on ne peut pas maintenir sous perfusion, ouais. Alors que même l'aide ne leur permettra pas de repartir.
Et c'est pas les aider que de les aider.
Mais donc, finalement, de les aider, on ne cible pas assez, mais le problème, c'est que c'est très compliqué de cibler parce que tu vas pas avoir un inspecteur qui va aller regarder dans chaque entreprise, étudier les bilans. Bon, alors là, ça vaut le coup d'aider ou là, ça vaut pas le coup d'aider.
Parce que t'as des entreprises, à contrario de ce que tu viens de dire, t'as des entreprises qui marchent très bien, qui ont une forte trésorerie. Est-ce qu'il faut vraiment les aider, ces entreprises?
C'est pour ça qu'on dit trop d'aide, tu l'aides au bout d'un moment. C'est que tu ne sais plus qui t'aide réellement.
Mais pardon, mais pour les particuliers, tu sais très bien qui tu aides. T'as plein d'aides ciblées. En fonction du revenu, etc. Les entreprises, tu peux aussi le faire en fonction des bénéfices, en fonction des charges, en fonction de plein de choses. Je veux dire, tu peux aussi aller regarder un peu plus près les comptes des entreprises pour savoir qui en a besoin et qui n'en a pas besoin, ce qui paraît quand même logique. Tu vas pas aider des gens. Je veux dire, tu n'aides pas les particuliers qui n'en ont pas besoin.
Oui,
tu vas pas aider les entreprises qui n'en ont pas besoin. Ça paraît quand même logique.
Pas commettre l'erreur qu'on a faite. Alors, heureusement que le quoi qu'il en coûte a été là. Heureusement, parce que ça a sauvé des milliers d'entreprises en France. Mais enfin, il y a quand même des entreprises, on a tous vu, qui allaient très bien et qui ont bénéficié d'aide et qui ont profité dessus,
bien sûr.
Exactement. Les GG ce matin sur RMC. Êtes-vous choqué par les tenues de nos députés? Depuis quelques temps, la tenue vestimentaire des élus à l'Assemblée nationale est de plus en plus critiquable. T-shirt, basket, short, pas de cravate. Désormais, c'est avec des jeans troués que certains députés se présentent. Une tenue indécente pour la cadre de la fonction publique des GG, Zora Bitton.
On peut tolérer les écarts des chemises ou des t-shirts, etc. Mais alors là, c'est carrément l'indécence totale. Sa tenue, elle ne convient pas à l'endroit où elle se trouve, à la fonction qu'elle occupe. Et ça n'a rien à voir ni avec le sexisme, ni avec la moquerie sur les vêtements, etc. Et je pense que LFI le fait exprès. Ils vont jusqu'à l'outrance.
C'est de la provoque.
C'est de la provoque totale. Ils se victimisent tout le temps. Ils sont dans une position de victimisation.
Non, mais ce qu'ils disent, venez comme vous êtes.
Non. Voilà,
on n'est pas McDo.
On vient pas comme on veut.
On n'est pas McDo.
On vient pas comme on veut à l'Assemblée nationale.
Mais c'est leur slogan. Hein.
Non. Et leur slogan.
On vient comme le peuple.
Attendez, ils ont un argument encore pire qui est de dire je préfère quelqu'un de complètement débraillé et qui fait le job plutôt que quelqu'un qui est en costume et qui le fait pas. Mais la question elle se pose pas dans ces termes. On vient habillé correctement. Alors, et on fait le job.
Yael Mellul, est-ce que vous êtes choqué par la tenue de nos députés?
Choqué, c'est un grand mot. Enfin voilà, je pense qu'effectivement pour aller à la salle, il faut avoir une tenue un minimum correct, on va dire. Mais moi, ce qui me choque le plus, c'est de faire des bras d'honneur à l'Assemblée nationale, par exemple. Beaucoup plus que d'arriver avec une tenue qui peut, pour certains, apparaître inappropriée.
Et il était en
Et si on était choqué par les deux, en fait.
Ah bah tu peux, tu peux, mais là la question c'est d'être choqué par les termes.
Évidemment, tu ne peux pas t'empêcher immédiatement de faire une résidence.
Bah non, je peux pas m'empêcher.
Au ministre de Macron, mais moi je préfère faire en fait condamner les deux et dire que ce qu'a fait Dupond-Moretti aurait certainement dû lui valoir un départ du gouvernement. Et de la même façon, cette députée NUPES. Alors, il faut préciser que
c'était dans un
cadre.
J'ai encore le droit d'argumenter comme je l'entends. Tu m'excuseras.
Tu as absolument le droit.
J'ai
le droit de contester tes raccourcis.
D'une part, évidemment qu'il faut arriver avec une tenue appropriée. Mais moi, ce qui me choque davantage qu'un jean troué en allant à une manif d'une députée, c'est un ministre qui fait un bras d'honneur à l'Assemblée. Alors, là, c'est ça mon raisonnement.
On est d'accord. Bien, d'autant que tu as précisé, et tu as eu raison de le faire, que c'était dans la rue lors d'une manif.
C'est ça.
Cette députée dont j'ai oublié le nom.
La députée avec un jean troué.
S'est habillée comme ça et c'est pas pour aller à l'Assemblée. Mais. Je pense qu'on peut envisager largement qu'elle pourrait aller à l'Assemblée comme ça, puisque de toute façon, les députés de la NUPES ont décidé de provoquer jusqu'à l'outrance absolue. Et ce qu'ils veulent, c'est justement désacraliser à peu près tout dans notre pays et dans cette démocratie, dans cette république. Ils ont envie de le faire. On a le droit d'être en opposition totale avec cette vision qu'ils veulent avoir de notre pays. Et donc, comme elle peut mettre son jean, même si, attention, vous allez probablement parler du règlement
oui, Rémi va le rappeler,
qui doit être respecté dans l'Assemblée, même si j'ai le droit de trouver ça pas bien, effectivement, et qu'il y a une fonction qui doit quand même les pousser à être un minimum décent.
Julien Damon, vous qui êtes adepte du costume trois pièces, est-ce qu'on doit être bien habillé en toutes circonstances? Est-ce que nos députés se doivent justement d'être habillés avec des vêtements décents?
tenue correcte exigée, mais à l'Assemblée. Après, ils peuvent se promener en maillot de bain, oui, mais en toutes circonstances.
Pas torse nu, parce que certaines communes l'interdisent.
Oui, 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 à Cannes en particulier. Oui. Mais à l'Assemblée, enfin dans les chambres parlementaires, je pense qu'il faut ce minimum de correction, qui donc, désormais, Rémi nous le rappellera, est intégré dans le règlement de l'Assemblée. Plus précisément, d'ailleurs, auparavant, les hommes devaient venir en portant une cravate. Ceci a connu une longue désuétude, et puis il a fallu récemment reconfigurer un peu ce règlement de l'Assemblée, et qui contient veste obligatoire pour les messieurs, cravate recommandée, mais enfin il faut un minimum de décence. Je dirais simplement, pour compléter les critiques faites par Daniel, je suis assez riolien, moi, dans l'analyse, pour...
ces deux écoles de français qui se rejoignent souvent.
Ne pas voir des députés comme ça faire absolument n'importe quoi, et provoquant la représentation nationale, et provoquant...
Mais non,
provoquant,
ils veulent dire on est comme vous, on s'habille comme vous.
Justement, ils ne sont pas comme nous. Mais ils ne sont pas comme nous.
Vous êtes...
Ils ne sont pas comme nous.
Encore une fois, pour revenir, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure.
Mon dernier argument, c'est que...
C'est comme, est-ce que vous avez un mariage qui va en survêtement?
Non, mais j'ai vu passer mon survêtement.
Mais c'est pas interdit.
C'est gênant pour les mariés.
Ouais, c'est gênant pour les mailles, c'est gênant pour les Français. Là, je dirais juste un mot. Est-ce que vous avez des images, Daniel, Riolien, est-ce que vous avez des images d'autres chambres parlementaires dans le monde, enfin en particulier en Europe, où les messieurs ne sont pas habillés correctement? Regardez, moi j'en ai pas à l'esprit.
Mais eux, ils ont pas les nups.
Non, certains ont quand même des gens très doués.
Rémi. Oui. Rappelez-nous le règlement de l'Assemblée.
Le règlement, il est le dernier règlement en date. Il date de novembre dernier, donc c'est tout récent, parce qu'il y avait déjà eu, on sait, maintes polémiques. Il dit que les parlementaires, femmes et hommes, sont priés d'observer une tenue en accord avec la solennité des lieux, on parle de l'Assemblée nationale, soit une tenue qui doit rester convenable et non détendue, ni a fortiori négligée. Voilà ce que dit le nouveau règlement.
Moi, je ne sais pas ce qu'est une tenue convenable.
Un jean troué, ça peut être considéré comme négligé. Je pense.
Un
t-shirt qui laisse apparaître le nombril, je pense.
Fais confiance à ton bon sens. Tu sais très bien qu'un jean troué, ça ne va pas vraiment être convenable. Tu sais très bien que venir en survêtement, ça ne va pas l'être non plus. Et qu'en jean, si c'est un jean uni, un peu foncé, ça passera
avec une chemise, ça passera très bien.
Alors, voilà. Excuse-moi, mais il me semble, pardon, sur une cérémonie officielle de la plus grande importance, il me semble par exemple que Zinedine Zidane était venu chercher un ballon d'or en jean troué, tu vois. Donc il doit y avoir des jeans troués extrêmement élégants.
Pardon de penser que le ballon d'or, c'est pas encore l'Assemblée.
Oui, mais c'est quand même une cérémonie. Ça veut dire une tenue convenable.
Et il avait une veste et il n'est pas élu.
D'accord. Et Emmanuel Macron, quand il est allé en visite en Angleterre.
Je suis pas sûr que ça tienne qu'à ça.
Emmanuel Macron avait des baskets lorsqu'il est allé en visite officielle à la.
Ça vous choque
ou pas?
Non, mais
c'est avant d'être dans Londres.
C'est avant.
C'était
d'arriver.
C'était des Westerns.
Je termine. Daniel, faut être précis. Il avait des baskets. Il y a eu une polémique parce qu'il avait été photographié comme ça. C'était dans la rue. Voilà. Parce qu'il avait marché à pied depuis son hôtel jusqu'au Parlement. Voilà. Et lorsqu'il est arrivé au Parlement, il s'est changé. Il a mis des chaussures de ville.
Elle était en manif et tout. Si elle s'habillait comme ça, je m'en fous. On parlait de l'Assemblée. C'est pas pareil.
On va terminer avec un extrait de Rotten sans flamme. Platini pourrait-il sauver le foot français après les nombreuses affaires à la Fédé, la démission de Noël Le Graët? On se demande qui pourrait remettre de l'ordre dans la plus importante fédération sportive de France. Invité hier de Jérôme Montaigne sur RMC, Michel Platini a clairement annoncé qu'il ne serait pas candidat au poste de président de la fédération.
J'ai fait une déclaration au mois de juillet. Quand j'ai été blanchi de mes affaires en Suisse, j'ai dit que je ne reviendrai plus dans les institutions du football. Point final, je ne reviendrai pas dans les institutions du football. Il me semble que la Fédération française fait partie des institutions du football. J'ai assez donné, j'ai été vice-président de la Fédération française il y a 30 ans, j'ai tout fait, ça va, ça suffit, c'est bien.
Michel Platini ne veut pas aider le foot français. Il faut le forcer ou pas, Daniel? En tout cas, il faut essayer de le convaincre.
L'âge de la retraite va peut-être être modifié très prochainement. Lui, peu importe si c'est 60, 62 ou 64, il est au-delà. Il a envie d'en profiter aujourd'hui. J'ai fait partie de ses plus grands soutiens. J'ai souhaité et j'ai espéré qu'il vaille bien venir se bagarrer pour prendre la 3F. Il ne veut pas. Il a 67 ans, il me semble maintenant. Il a envie de repos. Il a beaucoup souffert depuis 2015 et depuis la trahison de son ancien bras droit Gianni Infantino, qui lui a volé sa vie et sa place à la FIFA. Il est surtout content d'avoir été blanchi par la justice au mois de juillet de l'année dernière. Il a envie de jouer au golf et d'être avec sa famille dans le sud. Il faut respecter ce choix, même si j'aurais aimé le contraire, mais c'est son choix. Voilà.
Présentez-vous.
C'est tout. Où ça?
Bah, à la Fédé.
Non, journaliste, c'est bien comme métier, tu sais.
Ouais, c'est vrai que c'est pas
après,
mal.
Moi, je
faut un homme consensuel comme Daniel pour
je pense que je remplirais la fonction, aisément, mais je suis appelé à d'autres fonctions et je pense que tu m'en voudrais de plus être avec toi, donc.
Ça, c'est vrai. Voilà. C'est
vrai. Est-ce que je pourrais continuer à faire l'émission en étant, président de la
Croisette? Bien sûr, aucun problème, Daniel.
Ça dépend de ton comportement.
Oui. Ouais, mais ça, c'est dénu. C'est au-delà de la présidence de la CD. Allez, dans un instant, on parle conso avec Stéphane Pedrazzi. Cette question, faut-il retirer l'argent des banques après la faillite d'une banque américaine. Stéphane Pedrazzi nous dira tout sur ce dossier. A tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, Estelle Midi. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h49 sur RMC, RMC Story. Vous êtes dans Estelle Midi et c'est l'heure de parler conso avec Stéphane Pedrazzi.
RMC, Estelle Midi.
La minute conso.
Et cette question que tout le monde se pose depuis deux jours, Stéphane Pedrazzi, faut-il retirer notre argent des banques? On se pose cette question parce qu'une grosse banque américaine a fait faillite. C'est la plus grosse faillite depuis 2008 et la crise des subprimes.
Ouais, la Silicon Valley Bank, elle a fait faillite et effectivement, on s'interroge sur le risque d'effet domino pour les autres établissements bancaires. Ça n'est jamais anodin. Évidemment, une faillite dans le secteur bancaire. Attention quand même à ne pas dire et répéter n'importe quoi. J'ai lu que la SVB, la banque qui vient de faire faillite, était à peu près de la même taille que la Société Générale. Pour mesurer la taille d'une banque, faut pas regarder le cours de bourse, donc la capitalisation, mais faut regarder ce qu'on appelle le bilan, les actifs d'une banque. La Société Générale, c'est à peu près 1500 milliards d'euros. La SVB, c'est 5-6 fois plus petit. Donc attention quand même, faut garder les proportions en tête. Ça n'est pas l'équivalent de la Générale. Alors, si tu as écouté Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, il nous a dit qu'il n'y avait
toujours l'inverse de ce qu'il dit, donc
de risque de contagion pour les banques françaises. Effectivement, tout le monde s'interroge. Personne, en tout cas, n'a intérêt à alimenter un mouvement de panique dans le secteur bancaire et surtout pas Bruno Le Maire.
En fait, c'est ça qui mettrait panique.
Exactement.
Tout le monde allait retirer l'oseille.
Exactement. Et on appelle ça un bank run en anglais. C'est un nom. C'est lorsque tout le monde se précipite au guichet d'une banque pour retirer son argent. Pourquoi c'est un problème? Parce qu'en fait, les banques, elles n'ont pas la possibilité de rembourser tous leurs clients. Lorsque tu mets de l'argent sur ton compte, la banque, elle met pas les billets dans une petite boîte qu'elle va placer dans un coffre-fort. En réalité, cet argent, il est investi, il est prêté aux autres clients et aucune banque dans le monde n'est capable de rembourser ses clients. En fait, une banque, c'est un jeu d'écriture bancaire, d'écriture comptable. Alors, ça peut paraître choquant, mais si vous retournez le problème dans l'autre sens, lorsqu'une banque prête de l'argent pour un crédit immobilier, imagine si demain elle demande à tous ses clients de rembourser immédiatement leur prêt immobilier, la plupart des clients seraient incapables de le faire et ils seraient en faillite personnelle. C'est exactement la même chose pour les dépôts.
Mais est-ce qu'il y a quand même des garanties en cas de faillite d'une banque et de combien? C'est-à-dire que moi, si ma banque fait faillite, est-ce que je peux retirer mon argent ou est-ce qu'il m'en garde un petit peu?
Alors, jusqu'à 100 000 euros, ça c'est le principe de base, 100 000 euros par client et par établissement, ça c'est la garantie dans toute l'Union européenne.
Ou sur des...
Alors, c'est par établissement. Donc, attention, si tu as plusieurs comptes dans le même établissement, par exemple, un compte chèque et un compte d'épargne, la garantie s'appliquera qu'une seule fois. Ça ne sera pas deux fois 100 000 euros. Ah. Mais inversement, si tu as un compte joint, la garantie s'applique pour chacun des titulaires du compte, c'est-à-dire 200 000 euros pour un compte joint. Ça, c'est le principe de base. Petite précision pour ce qu'on appelle l'épargne réglementée, c'est-à-dire le livret A, le LDDS. Eux, ils bénéficient d'une garantie à part qui n'entre pas dans cette enveloppe de 100 000 euros. Et puis, pour ceux qui épargnent, qui investissent, il y a d'autres garanties. 70 000 euros, par exemple, pour les contrats d'assurance vie. Là encore, c'est par contrat, par assureur. 70 000 euros également pour les instruments financiers, par exemple, si tu as un portefeuille d'actions. Donc, au final, toutes ces couches de garantie, elles finissent par être suffisantes pour la plupart des clients, la grande majorité.
Mais Stéphane, si par exemple on vient de vendre un bien immobilier et qu'on a temporairement plusieurs centaines de milliers d'euros sur un compte bancaire, est-ce qu'il y a un risque? C'est ce qui est arrivé dans la série Years and Years et on sait que beaucoup de choses qui se sont passées dans cette série sont arrivées ensuite.
Exactement, ça fait peur à beaucoup de personnes qui viennent effectivement de vendre un bien immobilier ou alors celles qui viennent de percevoir un héritage ou qui ont eu une grosse indemnité de licenciement. S'il y a de l'argent de manière exceptionnelle sur votre compte, alors on appelle ça un dépôt exceptionnel temporaire. Le cas de figure a été prévu, la garantie est portée à 500 000 euros. Donc ça suffit là encore pour la majorité des clients. Mais si tu viens de vendre une maison au bord de la mer ou un appartement de 300 mètres carrés en plein centre de Paris, ça ne suffira pas et tu vas clairement y laisser des plumes.
Qui paie la garantie en cas de faillite? Est-ce que l'État, justement, peut s'engager et peut rembourser tous les Français?
Alors, il y a un fonds européen qui s'appelle le Fonds de résolution unique. Toutes les banques contribuent proportionnellement à leur bilan. L'objectif, c'est d'arriver à la fin de l'année à 1% des dépôts bancaires européens. Alors, ça paraît pas beaucoup, 1%, mais ça fait quand même un matelas de sécurité important. Et de toute façon, on parle d'un scénario extrême, c'est-à-dire si une banque fait faillite, ce que font les États, et c'est déjà arrivé avec le Crédit Lyonnais, avec Fortis, avec Dexia, c'est d'essayer de renflouer ces banques avant qu'elles fassent faillite pour éviter justement d'en arriver là. Et depuis 2008, depuis la crise financière, les banques aussi ont une obligation, elles ont renforcé leurs fonds propres, c'est-à-dire en gros, elles sont plus solides en cas de tempête sur les marchés.
Donc ce que vous nous dites, Stéphane, c'est qu'il n'y a aucun risque.
Alors si, il y a un risque, il est très faible, mais il y a un risque quand même, c'est ce qu'on appelle le risque systémique, c'est-à-dire quand une banque fait faillite, mais que la faillite est trop importante et elle risque d'entraîner tout le système. L'État peut venir au secours des épargnants sur une faillite d'une seule banque. Si tout le système s'écroule, l'État ne pourra absolument pas aider tout le monde. Si vous avez peur pour votre épargne, sachez que depuis 2016, en Europe, les banques ont le droit d'aller piocher dans l'épargne de leurs clients en cas de risque de faillite, uniquement les gros clients, ceux qui ont plus de 100 000 euros sur leur compte en banque. Alors, ça peut paraître effrayant de se dire que votre banque va venir se servir, mais la philosophie, c'est d'éviter que la banque s'écroule complètement. Si vous avez, 300 000 euros d'épargne sur un compte, il vaut mieux que la banque prenne 10 ou 15% plutôt qu'elle s'écroule et que vous perdiez tout. Évidemment, l'idéal, c'est de ne rien perdre du tout.
Et a priori, après, elle rembourse, non ?
Oui, ou alors on va vous donner des parts d'une nouvelle banque. Moi j'y croirais pas trop quand même.
On arrivera quand même.
On va éviter d'en arriver là.
À s'en sortir. Oui, voilà.
Va essayer de croire Bruno Le Maire pour une fois.
Eh ben écoutez, essayons. Mais enfin, c'est rare quand même qu'il ne se trompe pas. Donc écoutez, on va espérer pour cette fois. Stéphane Pedrazzi, on parle de quoi demain ?
Demain, on va parler d'une conséquence un petit peu inattendue de la réforme des retraites. Elle risque, par effet domino, de faire grimper le coût des crédits immobiliers.
Pourquoi ?
Eh ben on verra ça demain.
Eh ben merci Stéphane. Et la chronique de Stéphane Pedrazzi à Minute Conso est à retrouver en podcast, bien sûr, sur l'appli RMC, sur rmc.fr et sur toutes vos applis de podcast. Dans un instant, on parlera de deux gamins de 7 ans qui terrorisent leur classe et leur institutrice dans les Yvelines et près de Marseille. Des cas de harcèlement et de violence partout en France. L'État doit-il vraiment accueillir tous les enfants ? Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.